שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד
428. On continue à étudier l'article La Liberté. On est arrivé sous titre de création 1, l'homme, 2, l'âme vivante. Vous pouvez poser des questions sur CAP TV. Les questions sélectionnées seront posées en direct. De création, l'homme et l'âme vivante. Il s'ensuit que nous comprenons mieux le verset « L'Éternel, Dieu, façonna l'homme avec la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. » Nous voyons ici deux créations. Un, l'homme lui-même. Deux, l'âme vivante en elle-même. Au commencement, l'homme fut créé à partir de la poussière du sol, d'un assemblage de particules au sein desquelles se trouvait l'essence de l'homme, c'est-à-dire son désir de recevoir. Ce désir de recevoir est présent, comme nous l'avons expliqué, dans toutes les particules de la matière, d'où sont sortis les quatre types de la création, minéral, végétal, vivant et parlant. En cela, l'homme n'a aucun avantage supplémentaire par rapport aux autres créations, comme il est écrit « poussière du sol ». Mais nous avons vu que cette force appelée le désir de recevoir ne peut exister sans se revêtir et agir dans la convoitise d'un objet. C'est ce qui est appelé la vie. Il en résulte qu'avant que l'homme ne reçoive la forme humaine du plaisir, qui diffère des autres créations, il fut considéré comme un homme mort, sans vie. En fait, son désir de recevoir, faute d'endroit, n'a pas pu revêtir ni montrer ses actions, qui sont les manifestations de la vie. Il est écrit « Et il insuffla dans ses narines un souffle de vie, qui est la forme générale de réception destinée à l'homme. » Et le mot « souffle » en hébreu vient du mot « valeur » et d'origine, comme il est écrit, et le mot « souffle » se comprend comme il est écrit dans Job « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant soutient ma vie. » Et les mots « il insuffla dans ses narines » signifient qu'il insuffla en lui une âme, neshama, ainsi que l'appréciation de la vie, qui est la somme totale de toutes les formes qui sont dignes de réception dans son désir de recevoir. Ensuite, cette force, ce désir de recevoir qui était enveloppé dans ses particules, trouvait un lieu pour prendre forme et agir, à savoir dans ces formes de réception qu'il a saisies de Dieu, action qui se nomme vie, comme nous l'avons dit ci-dessus. Ça ne suffit pas de rester comme il a été créé, mais il doit atteindre des formes plus développées. Ça dépend de ses efforts, de son choix, de ses clarifications, des conditions au-delà de sa nature. Et alors il sera appelé Adam. Autrement, il reste au niveau vivant, animal. Mais d'où prendre exemple? Comment continuer à se développer? Continue. À la fin du verset, il est écrit « Et l'homme est devenu une âme vivante ». Cela signifie qu'à partir du moment où le désir de recevoir a commencé à agir selon la capacité de ses formes de réception, la vie s'est immédiatement dévoilée et devenue une âme vivante. Cependant, avant l'acquisition de ses formes de réception, et bien qu'en lui existe déjà la force du désir de recevoir, il est encore considéré comme un corps sans vie, car il n'y a encore aucune place pour l'action à venir. Comme nous l'avons dit ici-dessus, bien que l'essence de l'homme soit uniquement le désir de recevoir, elle est toujours considérée comme la moitié d'un tout, car elle doit prendre forme dans une réalité qui vient à sa rencontre. C'est pour cela que le désir de recevoir et l'image de son acquisition sont en fait une seule et même chose, car sinon il n'aurait pas le droit d'exister, ne serait-ce qu'un instant. C'est un problème. Les animaux, on voit que les animaux ne font jamais d'erreur, se développent selon la nature, ils font ce qu'il faut faire. Ils fonctionnent selon le temps de l'année, tout est mesuré, tout est fonctionne comme il faut. Ils mangent les uns les autres, oui, mais chacun respecte le système de façon. C'est merveilleux. Et l'homme, lui, sans arrêt, fait des erreurs. Et ensuite, c'est pourquoi, lorsque le corps, qui est une machine, parvient à son apogée, c'est-à-dire vers la moitié de sa vie, son ego se tient sur toute la hauteur qui lui a été donnée dès sa naissance. De ce fait, il ressent un énorme désir de recevoir, le poussant à vouloir faire fortune, à être honoré et à prendre tout ce qui peut se présenter à lui. Ceci est dû à la qualité de l'ego de l'homme qui attire les formes, des structures et des concepts dont il se revêt et se nourrit. Cependant, une fois la moitié de sa vie vécue, alors commence le déclin de ses jours qui, selon le programme, le conduiront à la mort, car l'homme ne meurt pas en un instant, contrairement à la vie que nous recevons en un instant. Mais son ego, tel une bougie, s'éteint progressivement, et avec lui la mort des images et des biens qu'il veut recevoir. Car maintenant, il commence à renoncer à beaucoup de choses auxquelles il rêvait quand il était jeune et abandonne ses plus grandes acquisitions selon la progression, le déclin de sa vie jusqu'à ses vieux jours, quand l'ombre de la mort plane sur lui. Il se trouve alors dans le temps d'aridité. Cela signifie que son désir de recevoir, qui est son ego, s'amenuise et disparaît. Il ne reste en lui qu'une petite étincelle que l'on ne peut pas voir, car elle n'est pas revêtue de l'objet d'aucun désir. C'est pourquoi, lors de cette période, il n'y a aucun désir ni espoir de recevoir quoi que ce soit. Nous venons de prouver que le désir de recevoir avec l'image de ce qu'il s'imagine recevoir sont vraiment une seule et même chose. Leur révélation, leur existence et leur mesure sont égales. Cependant, ici, il y a une distinction importante à faire quant à la forme du renoncement dont nous avons parlé lors du déclin de sa vie, car ce renoncement ne provient pas de sa satiété, mais de son désespoir. C'est-à-dire que l'ego, lorsqu'il commence à mourir lors de son déclin, ressent lui-même sa faiblesse et l'approche de la mort. C'est ainsi qu'il abandonne et renonce à ses rêves et à ses espoirs de jeunesse. Observons attentivement la distinction du renoncement dû à la satiété, car il n'occasionne aucun mal et ne peut s'appeler mort partielle, puisqu'il ressemble à l'ouvrier qui a terminé sa tâche, alors que le renoncement dû au désespoir est plein de tristesse et de souffrance, dont son appellation de mort partielle. Tu as entendu, Tzvika? Chaque renoncement, c'est la mort. Oui, Vlad. Qu'est-ce que ça veut dire, chaque retroussement, c'est la mort? Tu es désespéré. Et pour cela, cette situation ressemble à la mort. Quand tu viens de manger et un bon repas, il n'y a plus de plaisir, c'est ça? Mais tu t'es rempli de plaisir. tu ne ressens pas la mort, non? Le plaisir qui t'a rempli se termine, ou alors la vie sans plaisir, c'est deux choses différentes. Ça, c'est la vie, et l'autre, c'est la mort. Pourquoi le Créateur, pourquoi la vieillesse est si difficile? Je comprends, tu es un médecin, mais... Déjà, c'est très important, il vaut mieux pas renoncer, même le moment de mort elle-même, même toutes les souffrances, il ne vaut pas renoncer. Oui, on ne comprend pas, mais c'est quand même une façon de payer pour se rapprocher du but spirituel, bien que ça paraît vraiment cruel, je comprends. Tu vois, comme on ne se corrige pas spirituellement, c'est les problèmes, c'est la situation, les souffrances qu'il faut payer pour rembourser. Quelqu'un qui vit beaucoup et traverse la vieillesse doit remercier. Non, non, pas dire ça, c'est pas le calcul. Tu vois, les Hari, par exemple, ou l'Arabe du Breslev, ils sont morts très jeunes, mais si grands. Non, 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 ça ne veut rien dire. Ça. Même quand on est vieux, tu vas mourir, ne pleure pas, c'est ce que tu veux lui dire. C'est pas possible. T'es un médecin, je comprends. Tu sais qu'ils disent dans deux semaines, quelqu'un va... c'est pas possible. Il tient même interdit, tu comprends. On peut pas. Au contraire, je veux dire que il faut investir, c'est mieux de continuer à vivre, c'est important. Ça a une signification. Oui, d'accord. Il a galéré. Et toi, Svika, qu'est-ce qu'il te reste? Combien il te reste? Le désir de recevoir n'a plus de force sans prendre forme dans un objet qu'il voudrait recevoir. C'est ce qu'on appelle la vie. Ça, c'est une chose. Ouais. Et après, son désir de recevoir n'a plus recevoir et c'est la mort. Tu peux expliquer? Si le désir de recevoir n'est pas préparé à la lumière supérieure, il est mort, il va mourir. Il ne s'est pas préparé à vivre. C'est vivre, ça veut dire vivre. Vivre. C'est des chutes, ascensions, chutes et ascensions, sans arrêt. Ces changements, on appelle ça la vie. Ces mouvements dirigés vers la grandeur du Créateur est appelé la vie. Cette danse, cette prière, tout cela, c'est la vie. La vie. La vie, c'est les changements. Pourquoi alors il écrit que celui qui veut être riche et honoré vient de l'ego? Pourquoi l'ego doit être... Pourquoi je cours sans arrêt pour devenir riche et, là, 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 et je ne cours pas vers la spiritualité? Pourquoi? C'est comme ça la structure, désir de recevoir. Il est entièrement... Il doit changer d'intention. Le désir de recevoir, il est beau, il est géant, c'est la lumière qu'il a construite, tu comprends, la lumière l'a créée, exactement comme un gant. Si tu inverses, tu prends la forme du Créateur, il faut juste inverser, pas autre chose, ça suffit, allez, inverse-le et après continue à parler. Oui, Niv. Ce sentiment d'une personne, comme le Balasulam explique, jusqu'à la moitié de la vie, on a des espoirs, on pense qu'on va se remplir, et après ça commence à s'éteindre. Oui. Aujourd'hui, ça commence beaucoup avant. Oui, oui, c'est exactement ma question. C'est vrai. Aujourd'hui, très jeune, on peut le voir. Le désespoir, oui. Finalement, il n'y a rien dans sa vie. Parce que... On doit être prêt à atteindre la spiritualité. Déjà, un enfant, tu sais, avec l'internet et tout, tout est ouvert, tout est devant lui, tout est là, et il arrive à ressentir dans ce monde que qu'il y a tout, et très rapidement, il dit pas. C'est tout ce qu'il y a. Qu'on continue à jouer avec mon téléphone. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a pas de, il n'y a rien. Pas de travail, pas de. Et ce Hollywood qui arrivait à nous embrouiller, ça marche plus. La drogue, c'est ce qui reste. D'accord. Ben, on n'a pas le choix, d'accord. Et après, on va mourir. Cette situation, d'une part, on comprend bien qu'il n'y a rien dans ce monde, mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Oui, c'est vrai. C'est à cause de toi. Tu ne diffuses pas suffisamment la méthode de la correction. Pourquoi, pourquoi tout l'univers, tout existe, la nature, tout existe, pourquoi? C'est abruti, non? Hein? Dans la nature, qui est remplie de sagesse, se trouve cette partie qu'il faut développer, qui est tellement stupide. Où est la logique? Il n'y en a pas. Surtout l'homme. Aucun raisonnement, aucune... Regarde comment on termine la vie. On fait que du mal les uns aux autres. C'est pas plus que ça. Même une personne qui est raisonnable quand même, mais ils n'ont pas de solution, ils n'ont que des questions, d'accord. Donc, et même les petits-enfants aujourd'hui se posent ces questions. Alors, qu'est-ce que la Kabbale propose? Développer la vie, parce que vous ne voyez rien. Vous êtes comme l'exemple du ver de terre dans un radis. C'est ce que dit la Kabbale. Il faut sortir et vous verrez un monde au-delà de l'univers, de cette obscurité. Il existe quelque chose que vous n'imaginez même pas où vous existez. Oui? Encore un pas dans cette question. On voit bien que les gens qui arrivent à la sagesse de la Kabbale, jeunes ou adultes, comprennent bien que il n'y a rien, mais quand même, il y a un conflit intérieur. Bon, même si on comprend et on entend la solution, vous devez changer, expliquer chaque fois d'une autre façon. Et ce que vous enseignez aussi, vous devez être un peu plus créatif, oui. Lior, tu as écrit 2 livres, non? D'accord. Peu importe. Il faut. Ils étaient très, très, très bien, mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut réécrire. Et commencer tout de suite à organiser des cercles. Il faut toujours voir et comment corriger, critiquer la diffusion et pas aller, on fait comme ça et de façon officielle et on continue. C'est vrai. Et toutes les années aujourd'hui ça change, quelques mois le public change. L'attitude aussi doit changer. La réaction, on doit travailler, nous, et expliquer, bien sûr, la méthode de correction, c'est la même à la base, d'accord. Connexion, oui, dizaine, oui, mais comment l'offrir, comment le transmettre, ça, il faut changer rapidement. Je ne suis pas content de la diffusion dernièrement, pas du tout. C'est la diffusion pour des dinosaures, ce qu'on fait. C'est pas pour la population aujourd'hui. Quelqu'un comprend qu'il n'y a rien dans sa vie. Il voit que la lumière se trouve dans la cabane. Il y a un conflit. Vous devrez être comme des psychologues, l'accompagner tout au long de ses questions. Pourquoi et pourquoi il traverse toutes ces situations? Il faut jouer. On peut, je sais pas, filmer les questions aujourd'hui, dans un mois, regardons. Comparons ce qui se passe il y a un mois et aujourd'hui, c'est de répondre vous-même aux questions que vous avez il y a un mois et aujourd'hui vous avez d'autres réponses et ainsi de suite. Il faut, c'est comme un psychologue qui donne jusqu'à ce que l'homme suffisamment fort et a construit un groupe qui est capable de se maintenir. Quelle forme a ce groupe? Qu'est-ce que ce groupe offre à chacun de ses membres? Un groupe doit d'abord avoir une tête spirituelle, une tête matérielle, disons, administrative. Et ensemble, soutenir le groupe dans les deux, étudier, diffuser. Et étudier soi-même, je veux dire. De même, voir ce qu'ils traversent, tous ces événements, comprendre quelle est leur psychologie interne et l'évolution. Et qu'est-ce qui se passera alors? Alors, ils pourront écrire un livre de mémoire, je dirais. Ce qu'on a traversé et pourquoi on avait ces questions, quelles étaient les réponses. Comme la structure, la construction d'un groupe. Chaque groupe peut écrire un tel livre. C'est l'expérience. Il n'y a pas comme expérience pour étudier. Même si ça ne marche pas, ça aussi c'est une expérience, non? Allez.
Cette semaine, beaucoup de campus se terminent.
Et maintenant, ceux qui terminent se posent la question, comment continuer? On a terminé, ils ont terminé deux campus, un et deux. Je vais dire, comment expliquer l'importance de continuer? Et pas d'accord, on a terminé deux campus, on a compris, la plupart n'ont pas de questions, ils ressentent qu'ils ont reçu, ils le ressentent. Mais la question est-ce que quitter ou continuer comme ça? Je pense qu'ils voudraient continuer, mais on doit juste, comme tu as dit, les pousser. Il y a un campus numéro 3. 3 et 4 et 5. C'est exactement ce que je dis. Comment leur expliquer l'importance de continuer? Il y a des étapes. Non, je ne pense pas. Ça va bien. Il faudrait les amener à aussi pas comme chez nous, bien sûr que non, mais expliquer aussi ce qu'on fait Ibour. Ils peuvent écouter nos cours et faire quelque chose qui ressemble peut-être la même chose et de temps en temps venir être avec nous. Le pas suivant existe. Il faut juste, je sais pas, pendant, ils ont traversé une vingtaine de leçons, vouloir continuer. Et c'est ma question. Ben, on n'a pas atteint le but encore, non? On était à l'école et ensuite. C'est les principes qu'on étudie, on ne les réalise pas vraiment, peut-être un petit peu, mais il faut réaliser un peu plus intérieurement. Qu'est-ce qu'ils veulent? Peut-être qu'il faut recevoir d'autres, je sais pas, une partie des lettres, des articles, ticha ou das, peut-être un peu comme ça. Istaklut Pnimi, disons la première partie. Bien sûr, les articles Bala Sulam qui parlent de l'évolution du monde. On aurait pu. Presque tout ce qu'a écrit le Bala Sulam, hein, ce livre-là, vraiment, presque tout le livre.
Hier,
il y avait une soirée exceptionnelle dans 20 centres. Et je veux dire, Chaim, Lior et Yotam qui ont préparé des textes merveilleux, piquants comme ça, ils ont parlé de l'incarnation des âmes et d'autres choses comme ça. Moi j'étais à Petah Tikva, j'ai joué de la musique et beaucoup de musiciens ont participé. Et comme on vient d'expliquer, qu'à partir de ce désespoir, beaucoup, plus qu'avant, ont participé. On pensait avoir, si j'en ai une telle quantité, il y avait beaucoup plus.
Plus
on se prépare, je voudrais dire surtout les Chaim, ceux qui ont organisé ça, à Tel Aviv, on est 50, à Rishon 80, à Petah Tikva, une soixantaine, 30 à Carmiel, énormément qui ont participé. Les nouveaux qui sont là pour la première fois, entendent parler de ce qu'est la sèche de la Kabbale, les Chaim. Je suis content que vous attirez le nouveau public. Bien. Bravo, l'entier. Oui, Chaim.
Tu as parlé
de troisième et quatrième semestre. S'ils font partie d'un cadre déjà, je pense que avancer, je sais pas, et de temps en temps les amener à être avec nous au grand congrès. Ils seront là, j'espère. Et d'autres événements. Quelle est la proportion entre la pratique et l'étude? C'est peut être différent pour chacun. Peut-être Bercheva, c'est comme ça. Carmiel, autre chose. Qui peut répondre? Vous devrez ressentir chaque groupe. Comme tu as dit, à Afula, ça peut être quelque chose, et à Tel Aviv, un autre rythme. Et... oui, bien sûr. Bien sûr. Les sujets peuvent être différents, je ne sais pas, au nord. On dit qu'ils sont plus intelligents, par exemple. C'est comme ça partout, à vrai dire, dans le monde entier. En Europe aussi. Il y a le nord et il y a le sud. Oui, et Tel Aviv aussi, le nord et le sud. Donc on doit changer aussi, adapter
la méthode, le rythme,
selon les utilisés, ce qu'on utilise.
Je comprends. Pour
moi, c'est nouveau.
Par exemple,
je termine le deuxième semestre à Rehovot. Maintenant, il passe à une communauté, je ne sais pas, le point dans le cœur. Et
ils
étaient vraiment contre. Ils ont dit non, on veut continuer à étudier, on veut rester ensemble. Et alors, ils ont peur d'un groupe, d'une communauté, oui. On ne va pas contre ce qu'ils veulent. Mais jusqu'à là, il y a un cadre et on les force à suivre le cadre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose de sacré. Il y a un processus. C'est vous qui avez décidé, c'est pas saint, c'est pas sacré. Et alors, et s'ils veulent autre chose, et dans 10 ans, ce sera autre chose, il faut suivre les gens. S'ils veulent, je sais pas, être assis sur le sol et étudier sur le sol, s'ils veulent. Faire ça à Rishon et à Tel Aviv, tout ce qu'ils veulent, qui permet petit à petit de leur donner. Il faut contrôler quoi, mais ça veut dire leur dire c'est comme ça le chemin et c'est tout, mais non, c'est affreux.
Mais
ils voudront toujours rester en petit groupe. Et alors, eh ben, oui, une dizaine, et alors ben, il faut avancer, non? Qu'est-ce que ça veut dire, avancer? Hein? Et si je ne suis pas prêt encore? Ils doivent comprendre que, disons, un grand groupe, c'est plus utile, mais ils doivent le vouloir. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, non? C'est ce que je vous dis. Vous devez changer la façon de réfléchir, l'attitude. Tu aurais fait la même chose avec tes enfants? Non, mais je sais pas. Moi aussi, j'étais au lycée, à l'école. C'est un cadre et je dois suivre. Et qu'est-ce qui est si bien dans ce cadre? Quoi? Rien de bien. Tu veux plier l'homme? Il veut continuer à rester dans sa classe. Et alors? Mais on ne peut pas faire exactement ce qu'ils veulent. Le système n'est pas capable de remplir le désir de chacun. Quelqu'un dit, moi je veux étudier que Taz. Mais s'il n'est pas prêt, il ne veut pas, tu veux le faire passer de là à là, et lui, il a disparu en même temps. Il rentre chez lui, c'est mieux. C'est ton ego qui dit ça. Et tu dis que c'est mieux. Hein? C'est pas plus que ça. Tu dois te plier devant lui. Comme un garçon. Qu'est-ce que vous voulez, s'il vous plaît? Très bien, écoutez. Asseyez-vous. Oui, tout va bien. Comme ça, il travaille. Les gens sont gâtés.
Non.
C'est interdit de faire ça. C'est pour ça que je vous dis, s'ils veulent rester où ils sont, qu'ils n'ont qu'à rester. De la même façon, tout doucement, jusqu'à qu'ils demandent eux, ah, et quand on arrivera à faire ça, quand, parce que là-bas ils font ça, et nous, quand on fera ça? Tu peux essayer de les attirer, hein? Et même sur place, ça se développe, un cadre. Pourquoi vous devez chaque fois casser les choses? Personne ne veut ça. Ah, je préfère rentrer chez moi. Tu lui ouvres une porte pour abandonner, c'est ce que tu fais. Plus ils sont ensemble, ils s'habituent aux amis. Une fois par semaine. Voilà, Dieu merci, j'ai ça. 2 fois par mois, en plus, je ne sais pas, il y a une réunion. Ah, on a des amis, on a un groupe, ta 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 ta. Et si tu enlèves ça, qu'est-ce que tu as fait?
C'est une corruption, ça, c'est vraiment. Quoi ça sert, tout ça?
Hein?
Cette façon d'enseigner comme les, ce qu'ont inventé les Allemands pour préparer les ouvriers pour leur entreprise. Personne ne veut faire ça. Écoutez, vous devrez changer entièrement d'approche. Il y avait quelqu'un là-bas, non? Qu'est-ce qu'il y a, Ori? Quel est le rapport avec toi, tout ça? Tu as dit, aujourd'hui par exemple, il y a campus 1, 2, 3, on a les réunions le samedi, on a des promenades, si en fait une personne décide, chaque personne décide ce qu'il veut faire.
Il y a
tout en même temps et chacun décide où elle veut être. Ici, là, on va se promener, on se promène. C'est-à-dire tout est là, tout est ouvert et chacun se promène où il veut. Non, non, non. Tout doit être au milieu. Je veux dire qu'il faut de préparer, l'éduquer selon ce qu'ils veulent. L'éducation, oui, c'est toi qui construis, qui donne, qui prépare, mais comment, de quelle façon, il doit choisir.
C'est pas bien de le laisser choisir?
Non, tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Ben non, je ne comprends pas. Par exemple, il doit étudier quelque chose en mathématiques. Lui, il peut étudier de cette façon, mais ça ne lui prend pas 5 ans, mais ça va lui prendre 10 ans. Alors, tu l'enseignes pendant 10 ans. Pourquoi tu veux terminer? Pourquoi ces classes doivent se terminer? Ben c'est exactement ce que je dis, non? Disons qu'il y a campus 1 toute la vie. Non, non, ils doivent ressentir qu'ils avancent, qu'ils passent d'une classe à l'autre. C'est comme un prix. Et c'est nous qui décidons ou nous. Ils doivent savoir quand même qu'ils avancent, qu'ils passent d'une situation à l'autre. Et... Allez, je m'en vais. Je ne peux pas parler avec de telles questions des gens. Ah non, 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 ça suffit, allez. Oui, aujourd'hui, c'est quoi le... Aujourd'hui, New York, numéro 2, Russie, numéro 1, Italie, 1, Petah Tikva, 3, Tel Aviv. On continue aujourd'hui à construire le supérieur, on joue le degré supérieur. Aujourd'hui, on est tous unis, chacun mis, joue, qu'il a déjà atteint. Voilà. On construit le supérieur, on joue le degré supérieur. Aujourd'hui, on est tous déjà connectés, chacun mis, joue. À sa dizaine, qu'il a déjà atteint le don.
Odaot. Shiur Zohar. Inchem uzmanim litzpot ha'erev b'sha'a 6:15 b'shidur b'shiur Zohar b'shidur chayim Rav Leitman. Shishi patuach. Chaverim mikol kvutzot Yisrael v'tzofei arutz Kabbalah la'am bo'u lishtatef b'shiur Kabbalah miyuchad u'bisu'udah chagigit. יום שישי, 2:45 לפנות בוקר ברחוב הנבטים 12, פתח תקווה. לתאום הגעה יש להתקשר ל-1-700-509-209. תודה לצופים בטלוויזיה ויום טוב.
суждено, преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж.
Together we can make the darkness bright.